Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir dans les salons de la librairie Mola Gilles Kepel, qui est professeur de sciences politiques, qui est, je crois qu'on peut le dire, on va dire le meilleur, parce que je ne voudrais pas d'emblée le mettre en difficulté, mais vraiment l'un des tout meilleurs. Moi, j'ai mon opinion personnelle, même sur le classement final. L'un des tout meilleurs spécialistes en France de l'islam, et qui, évidemment, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir, a été particulièrement sollicité ces derniers jours pour apporter son expertise, sa connaissance de ce monde. Pour nous, en sciences humaines, on dit, sans aucune dimension péjorative ou, comme on dit, méliorative, cet objet de recherche particulier, cette question de recherche, qui est celle de l'islam, et évidemment de l'islam en France. Donc Gilles Kepel, je le présente en quelques mots. Vous êtes né en 1955 et vous avez fait les études propres aux sciences humaines. Je crois que vous avez deux doctorats et vous avez été donc, vous étiez dans un premier temps chercheur au CNRS. Vous me disiez tout à l'heure en aparté que vous avez fait votre thèse sous la direction d'un grand professeur de sciences politiques, le professeur Étienne, qui a été, on peut presque dire, à la tête d'un centre de recherche de Sciences Po Aix, l'IREMAM, l'Institut de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, qui a été peut-être un des tout premiers en France à avoir un regard scientifique sur la question de l'islam, sur la question des musulmans en France. Pour juste situer, vous avez peut-être en tête le nom de Michel Seurat, qui a été ce chercheur disparu tragiquement après une longue prise d'otage à Beyrouth. Eh bien, c'était un des élèves du professeur Étienne. Le professeur Bruno Étienne, c'était son prénom qui m'échappait. Donc, Gilles Kepel est professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris, membre de l'Institut universitaire de France, et puis, si j'ai pris les derniers éléments de votre biographie, vous êtes pour 2 ans au Conseil économique et social et environnemental, qu'on appelle communément la 3e Assemblée de la République, au titre d'expertise qui est la vôtre. Je crois qu'on en a convenu à l'instant. Je pense qu'on va mettre à profit votre présence, peut-être pour, si vous voulez bien, avant d'évoquer les deux ouvrages pour lesquels vous êtes invité ce soir et parmi nous, profiter du fait que vous êtes là pour avoir votre analyse et votre expertise sur ce qui vient de se passer, et précisément peut-être sur l'itinéraire, la trajectoire, ce cas particulier qui était donc celui de Mohamed Merah. Peut-être que vous pourriez nous dire votre lecture et votre analyse, parce que d'une certaine façon, sans, comme on dit, partir d'un cas particulier pour monter en généralité, il ne faut pas faire ça, mais il y a une dimension incarnée dans la trajectoire et dans l'itinéraire de Mohamed Merah, qui, avec les précautions d'usage, c'est-à-dire surtout en évitant, de, encore une fois, d'en tirer une loi générale, est une forme d'illustration. Gilles Kepel, si vous voulez bien.
Merci beaucoup, mon cher collègue, de cette présentation si aimable. Merci de m'avoir invité à venir à Bordeaux, qui est un voyage que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Évidemment, ces derniers jours ont un peu bouleversé mon emploi du temps, mais j'ai tenu, bien sûr, à venir ici. Et vous savez, toute la dévotion que les auteurs et les éditeurs ont pour la librairie Mola, l'une des plus belles, sinon la plus belle de France. Alors, merci pour cette introduction. C'est bien sûr difficile de se prononcer sur un cas individuel parce qu'il faudrait avoir accès au dossier, même si beaucoup d'informations sortent depuis 2 ou 3 jours dans la presse. Sans vouloir entrer dans la personnalité du tueur présumé de Toulouse et de Montauban, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, quand j'ai commencé à récupérer les pièces du puzzle, c'est qu'elles s'inscrivaient dans un itinéraire que j'avais identifié, non pas dans ces deux livres-là, mais dans le précédent qui s'appelle « Terreur et martyr » qui était paru chez Flammarion, et que j'ai appelé la troisième génération du djihad. La première génération du djihad, si vous voulez, c'était ceux qui étaient partis en Afghanistan dans les années 80. La deuxième, c'est ceux de Ben Laden, avec une organisation de type assez pyramidal, finalement, qui est basée, les dirigeants sont basés dans la zone pakistano-afghane, et qui donne des ordres à partir desquels seront exécutées des actions. Les tours jumelles, bien sûr, le 11 septembre 2001, sont les plus célèbres, mais on a eu les attentats de Madrid, les attentats en 2004, le 11 mars, justement, notez bien la date, 2004, les attentats de Londres, le 7 juillet 2005, auparavant, les attentats de Djerba, la synagogue de la Ghriba, etc., etc., et avant, des attentats au Kenya, au USS Cole, en 2000, à Aden, ou les attentats de 1998 qui commémoraient, là encore, l'appel, en août 98, l'appel des Saoudiens aux troupes américaines sur leur sol, en Tanzanie et au Kenya. Et avec l'épuisement du modèle d'Al-Qaïda, qui, à force de répéter ce type d'action terroriste spectaculaire, finalement n'avait pas réussi à mobiliser les masses. Et puis, avec l'échec de la grande entreprise, du grand objectif d'Al-Qaïda, qui était de réussir en Irak, sous occupation américaine, un djihad comparable à celui qu'avaient mené les Moudjahidines, ou parmi lesquels les dirigeants d'Al-Qaïda s'étaient formés, en Afghanistan dans les années 80. En 2005, après la mort d'Abu Musab Zarqawi, principal djihadiste irakien, Al-Qaïda a perdu la bataille de la mobilisation. Et en Irak, du reste, les Américains et les djihadistes sunnites se battent. Et pendant qu'ils se battent, ce sont les Iraniens qui vont mener leur action. Et aujourd'hui, l'Irak, avec les Américains qui sont partis et les djihadistes sunnites qui ont été à moitié exterminés, est devenu une sorte de protectorat iranien. C'est un paradoxe, évidemment, tout à fait extraordinaire. Et donc, pour la mouvance djihadiste radicale, c'est un vrai problème, puisque, au fond, ça aboutit à l'échec. Et certains idéologues de cette mouvance réfléchissent à ça, en tirent le bilan. Et le principal de ces idéologues est un Syrien qui s'appelle Abu Musab al-Souri, ce qui veut dire Abu Musab le Syrien, qui, quelqu'un qui est assez connu, qui a eu une longue histoire. Il était à Londres dans les années 90, où il éditait un petit bulletin qui s'appelait Al-Ansar, ce qui veut dire les partisans, qui était le bulletin de soutien aux actions du GIA en Algérie pendant la guerre civile.
Souvent, les revendications d'actions du GIA passaient par ce journal. Oui.
Tout à fait. Mmh. Voilà. Mmh. Et lui et un autre, un Palestinien, qui s'appelait Abu Qatada, qui a été ensuite assez connu aussi, montaient ce journal. Ensuite, il est reparti, il est allé en Afghanistan, il était proche de Ben Laden. Il a été traqué après le 11 septembre, arrêté et finalement livré par les Américains aux Syriens à l'époque où les relations syro-américaines étaient meilleures qu'elles ne sont aujourd'hui, dans le cadre des politiques de renditions qui faisaient que on confiait un ressortissant d'un pays à des services secrets d'un autre pays où on n'avait pas trop de pudeur avec la torture, disons. Et donc Abu Musab al-Suri a été apparemment libéré récemment par Bachar el-Assad pour mettre un peu plus de confusion dans l'opposition syrienne et pour permettre de mieux nourrir la dénonciation de celle-ci comme un repère de terroristes et de djihadistes. Alors, Suri, quand il quitte l'Afghanistan sous les bombes de la coalition internationale à l'automne 2001, tire un bilan très amer de ce djihadisme piloté par le haut. Et il va réfléchir là-dessus, et c'est un auteur très prolifique, profus et confus également, et il publie 1500 pages sur Internet, qui, dans la traduction en français, ça se traduirait par « Appel à la résistance islamique globale ». Il tire le bilan de l'échec et il essaye de construire une voie alternative qui consiste à tuer autant que possible à la fois des mauvais musulmans dans un premier temps, entre guillemets bien sûr, et des impies dans un second temps. Non pas en étant organisé, non pas en exécutant les ordres comme c'était le cas précédemment, mais à partir de petits noyaux, de petites cellules faites de djihadistes individuels qui auront été formatés lors de voyages dans des camps en Afghanistan et au Pakistan, et qui ensuite, soit d'eux-mêmes, soit sur incitation, et on ne le sait pas encore dans le cas du tueur présumé, passeront à l'action, idéalement dans leur proximité. Et quand j'ai relu les pages que j'avais consacrées à l'appel à la résistance islamique globale et qui, dont le leitmotiv est ce qu'on appelle en arabe, c'est Nizam la Tanzim, ce qui veut dire une méthode et non une organisation. Uh-huh. C'est pour les professeurs de sciences politiques. Uh-huh. J'ai été extrêmement frappé par le scénario de ce qu'a fait Merah. Alors j'ignore dans quelle mesure il l'a fait consciemment, mais son passé, ce qu'on sait de lui, la manière dont il a été endoctriné, embrigadé, y compris de façon soft, si j'ose dire, sans être véritablement pris en main par une filière, cadre d'une manière tout à fait étonnante avec cette vision des choses. Et toutes les contradictions qui ont été pointées par les journalistes ou les commentateurs ignorants ces derniers jours, comment se fait-il, il aimait les filles, il allait en boîte, il conduisait des voitures volées, etc. En fait, c'est pas du tout un problème, ça c'est ceux qui ne connaissent rien, ils sont nombreux qui disent ça, parce que si vous regardez les itinéraires des djihadistes du 11 septembre par exemple, à partir du moment où l'on considère que la fin, pour les djihadistes radicaux, c'est ça, justifie les moyens, vous savez, dans le djihad, lorsqu'il est proclamé, ou lorsqu'on croit qu'on est proclamé, on n'a plus besoin, le djihad lève toutes les autres obligations. On n'est pas obligé de jeûner, on n'est pas obligé de faire la prière. Et si c'est pour tromper l'ennemi et assurer la victoire finale de la communauté croyante telle que les djihadistes radicaux se la représentent, bien sûr. On peut dissimuler tant qu'on veut. Donc on n'est pas du tout obligé de porter la barbe, ni d'avoir une gel là-bas, ni quoi que ce soit. On peut même boire du vin, si ça aide à tromper l'ennemi. Et l'un des 19 du 11 septembre, le Libanais Ziad Jarrah, avait une petite amie qui n'était même pas mariée musulmane, à la musulmane avec lui, comme on dit en banlieue, il n'avait pas fait le halal, et qui veut dire le mariage halal, puisque le halal désigne la viande et aussi la chair. Uh-huh. D'ailleurs, de la chair à la viande, comme vous savez, il y a une continuité. Et donc, c'est tout à fait possible, ce genre de choses. Pour ceux qui ont une connaissance à peu près correcte des événements récents, le savent très bien. Ce n'est pas du tout un souci. Donc, en fait, ce profil, les gens qui ont dit que c'est un loup solitaire, je ne sais pas ce que j'ai entendu, non, pas du tout. On est dans une nouvelle génération qui a été endoctrinée d'une manière bien spécifique et qui Alors, après, j'ignore son idiosyncrasie particulière, etc. Mais on est vraiment dans quelque chose. Alors, ce qui vous explique aussi les débats qu'il y a eu, dans le cadre de la campagne électorale, évidemment, aussi, sur l'efficacité du renseignement français, puisque un grand Bordelais, d'ailleurs, les a soulignés récemment. Je pense que la raison pour laquelle nous avons été immunisés depuis 1996, il faut bien se le rappeler.
Depuis Raled Kelkal.
Exactement. Mm-hmm. Un autre franco-algérien qui a eu un itinéraire identique.
La prison.
Petite délinquance, prison, réislamisation en prison. Mm-hmm. Et c'est que justement les services français qui avaient été instruits par l'expérience algérienne ont assez bien su pénétrer, identifier et désamorcer les complots qui ont été
établis
dans les réseaux.
Faire ce qu'on a appelé du renseignement humain,
oui.
plutôt que technologique, comme ont pu faire on disait
les Américains.
Comme
oui.
les Américains.
Mmh. Mmh. Alors, ils ont fait les deux, mais c'est vrai que... Enfin, je peux pas me prononcer, je ne suis pas du tout spécialiste des assauts du RAID, mais... Il semble effectivement qu'il y a eu un souci. En tout cas, ça ne s'est pas réalisé comme ça aurait dû l'être. Mais mon expertise est récente. C'est à force d'être sur la chaise musicale avec des flics à la télévision depuis 3 jours que dans les coulisses, je m'informe auprès du commandant Proutot, du capitaine machin, de l'autre. J'essaie de grappiller un peu d'informations pour avoir l'air savant. C'est vrai, renseignement humain, mais aussi une bonne connaissance de la phase 2 du djihadisme. Or, nous sommes aujourd'hui dans la phase 3. Et c'est ça que montre cette histoire. Et c'est aussi pour cela, je pense, c'est aussi parce que ça a été compris, ça a été perçu, que le président de la République, dans les mesures qu'il a évoquées hier, a ciblé sur l'Internet. Alors, après, la faisabilité de ce qu'il propose, c'est une autre question. C'est un débat qui a d'ailleurs été lancé depuis lors. Mais ce que ça signifie, en tout cas, c'est l'identification qui lui a sans doute été faite par les services spécialisés des failles. Et surtout, je crois que ça correspond à une transformation que nous ressentons aussi à l'université. Et que, bon, ça fait bien longtemps que les étudiants ne lisent plus rien, enfin, ne lisent plus de livres, le papier leur donne des maladies, des boutons, des allergies, tout comme ça.
J'ai des étudiants à moi qui sont dans la salle. Hein, là.
Non, mais les vôtres lisent, bien sûr, mais c'est ceux des autres, des mauvais professeurs. Et autrefois, ils lisaient encore le web 1.0, c'est-à-dire ce qui descendait du ciel, et du reste, les salafistes ne se conçoivent pas sans ordinateur. Les salafistes sont des gens qui lisent dans les ordinateurs les fatwas qui arrivent d'Arabie Saoudite, d'habitude pour les rebeux français traduites dans un français calamiteux, puis améliorées au fur et à mesure que les salafistes font des études des phases de l'enseignement supérieur. Il y a des salafistes thésards aujourd'hui qui arrivent à écrire un français assez correct. Mais le grand bouleversement, et d'ailleurs qui a fragmenté le champ salafiste, puisqu'il a introduit la pagaille en son sein, c'est le web 2.0. Depuis 2005, 2006 à peu près, le web 2.0 correspond aux grands attentats islamistes en Europe. C'est 2004-2005. 2004, c'est Madrid. 2005, c'est Londres. C'est Théo Van Gogh. C'est donc tout ce qui va faire, tout ce qui va donner le sentiment qu'il y a une menace djihadiste sur le sol européen, puisqu'après tout, ce qui se passait au Kenya ou même aux États-Unis, on sait qu'on était immunisés. Et toutes ces ruptures coïncident. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit, je crois, la maturation qui va mener à ce qui s'est passé. Vous l'avez vu sans doute également, c'est l'un des facteurs qui m'a le plus intéressé dans le décryptage, c'est la petite caméra sanglée qu'il avait sur lui. Il filmait tout. Il filmait tout, pourquoi ? Pour le poster, comme on le dit en franglish, sur le web, surtout sur le 2.0, et faire des émules Et ça, c'est également, tout ça, c'est dans Abou Moussa al-Souri, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Le mode d'emploi, on l'a, si vous voulez. Faire des émules de manière réticulaire, puisque les raies, c'est le web, c'est le filet, à travers l'Internet, vous voyez, de manière horizontale, c'est des émules, et c'est pourquoi la gestion de son arrestation et aussi la symbolique de ces assassinats est si importante. Alors, comment ça s'est passé, tel que je le comprends? Il a commencé par tuer des militaires qui se trouvaient être, pour trois d'entre eux, musulmans. Alors, on dit, mais je n'ai pas vu les textes, que dans cette espèce de chose très curieuse que la plupart d'entre vous, comme moi, avaient découvert, c'est-à-dire le métier de négociateur du raid. C'est une chose particulière, négociateur du raid, donc qui sont des gens qui sont des policiers formés à la psychologie et qui ont pour but de faire parler le forcené. C'est la carotte, si j'ose dire, face au bâton, c'est-à-dire à l'amollir ou le faire vider son sac. Là, je lisais dans le train tout à l'heure un entretien avec Squarcini, le patron de la DCRI, justement, qui expliquait, enfin, qui donnait quelques éléments, ce qu'il voulait communiquer, sur la manière dont c'était passé, le fait que Merah avait réclamé de voir son correspondant dans les services qu'il avait convoqué après l'Afghanistan et qui lui avait dit alors, et à qui il avait sorti une clé USB avec des photos touristiques du Pakistan et de l'Afghanistan pour l'enfumer, pour lui faire croire qu'il était allé faire des photos de je ne sais quoi, des mosquées pittoresques ou des sommets enneigés du Pakistan et de l'Afghanistan, qui sont deux très beaux pays par ailleurs. Et donc il avait établi une espèce de relation de proximité. C'est dans ce cadre-là qu'il aurait dit « je ne les ai pas tués parce qu'ils étaient des musulmans ». Il ne faut pas forcément prendre la conversation sous contrainte d'enfumage et de contre-enfumage ou de désenfumage entre un traiteur, un officier traitant des services et un forcené encerclé, cerné, comme la loi et les prophètes, si j'ose dire. Hein. Mais bon, peut-être. Toujours est-il que ça l'avance, si on se réfère à Souri, et Souri a paradoxalement, non pas influencé directement, parce qu'on n'a pas de preuves, mais ressemble d'une manière étonnante, parce que ça appartient à la même période en fait, à Breivik, le tueur d'Oslo. Lui aussi, qui avait une espèce de logoré internet, qui a écrit également une espèce de compendium aussi indigeste que celui de Souri, à peu près 1546, ou je ne sais plus. Là, c'est dans ce livre aussi, c'est dans 93. Et qui est. Je connais les deux textes, je les ai lus tous les deux. Vu la vie de professeur est parfois calvaire. Hein. Deux fois 1500 pages sur Internet, c'est dur. Et bon, je ne parle pas du tout mot à mot, hein, quand même. Je ne suis pas un saint. Et là, le parallélisme est extraordinaire. Du blabla, c'est du 1500 pages, ça veut dire beaucoup de copier-coller. Hein. C'est encore pire que les étudiants. Ils n'ont pas, il n'y en a pas de logiciel anti-fraude. Enfin, moi, je ne corrige plus de copies maintenant, mais que les jeunes collègues qui corrigent les copies essayent de mettre. Voir ses étudiants ont pompé, fait du copier-coller. Mais et donc, c'est tout du copier-coller. Alors, à l'envers, l'un explique que le monde est pourri, va à la ruine, parce qu'il y a un complot des croisés et des juifs. Et donc, il faut commencer par les tuer à la base. Ça, c'est Souri. Avec des actions genre celle de Toulouse-Montauban, répandre la terreur dans la proximité. Et ensuite, par capillarité, on va recruter des réseaux qui vont vouloir faire pareil, et ensuite on va passer à un deuxième stade, là il y aura la guerre, et puis après ce sera la conquête, troisième stade. Et chez Souri, il y a à peu près la même chose, mais à l'envers. L'Europe est islamisée, dans la France...
Chez
Breivik. Voilà, l'Europe est islamisée, la France en partie, est Marseille. Marseille est une ville totalement islamique déjà. Mais il n'y est pas allé. Et peut-être heureusement. Et donc, il faut commencer par tuer les traîtres. Mmh. C'est-à-dire l'équivalent des mauvais musulmans chez l'un sont les traîtres chez l'autre, c'est-à-dire les sociodémocrates, ce qu'il appelle les marxistes culturels. Et dans son délire, il s'était fait des petits uniformes. Il aimait bien les uniformes. Lui était assez starbé. Hein. Et il avait fait un petit blason qui était, il avait un permis de chasse pour tuer les permis de chasser et de tuer les marxistes culturels qu'il avait mis sur son truc. Il se photographiait ensuite sur sa webcam et il le mettait en. On est dans un monde où le web joue un rôle absolument essentiel. Même processus que souris, mais inversé. Et là, je consacre un chapitre entier là-dedans au web, et que j'appelle les tentations du repli. Ouais. Une expression que j'ai empruntée au président candidat, quand il était candidat et pas encore président, qu'il déposait devant la commission Stasi, dont j'avais l'honneur d'avoir été membre. Et mes collègues m'avaient demandé de se partager les rôles, de poser des questions au ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. C'était moyennement passé, un peu comme le repas qu'il a donné à l'auteur des banlieues de la République. Il paraît que Madame Tribala a répondu des méchancetés, mais j'ai pas vu.
Vous la traitez d'arrière latérale de l'université française, c'est pas sympa non plus.
Bon, c'est la vérité. Et j'ai pas lu sa réponse, madame. Et il avait utilisé cette expression qui était comment faire pour éviter les tentations du repli. Et donc j'ai essayé de montrer comment le web permet de construire ces espèces de mondes clos ou qui partent en vrille. Et là, dans le livre, j'ai essayé de montrer comment se répondait en miroir, parce que j'ai été très impressionné par la relation Breivik-souris, si vous voulez. Comment se répondaient en miroir les sites identitaires anti-islamistes, ou anti-musulmans en général, du reste, pouvaient partir d'un socle d'extrême droite, comme le bloc identitaire, par exemple, ou d'extrême gauche,
Riposte laïque, oui.
Pierre Cassène.
Animé par un
ancien
trotskiste, oui.
Mais qui a été ensuite ouvrier du livre. Je pense qu'ouvrier du livre a été quasi le plus important. Et d'un côté, et de l'autre, des groupes comme les indigènes de la République, de cette femme très étonnante, Ouria Boutelja, qui a fait un tabac sur les plateaux de ce personnage curieux, Dominique Taddei, puisque son extrême beauté contrastait avec la violence terrible des propos qu'elle tenait, et qui désigne l'autre en exclusion, qui a fabriqué l'identité de l'autre haïssable, le français de souche, dont elle a fait un dérivé, le souchien. Bon, souchien, ça fait aussi au-dessous du chien, du kelb, en arabe. Et puis un groupe que Guéant a dissous la semaine qui a suivi Forsan et l'Aïza, la publication du livre. Bon, j'ai pas été accusé d'être inspiré, c'est loin déjà ça. Forsan et l'Aïza, qui veut dire les cavaliers de la fierté en arabe. Un groupe étonnant, alors qui lui faisait du djihad sur Internet, sans jamais passer à l'acte, mais qui était toujours borderline, si vous voulez, et qui s'était illustré notamment en organisant des crémations, un démontage du McDo à Limoges. C'est-à-dire marrant, parce que on reprend la grammaire politique de José Bové, mais là, on ne démonte pas le McDo parce qu'il est anti-écologique, mais parce qu'il est juif. Et parce que McDo, est un patron juif qui finance Israël, enfin bon, un truc, prétexte quelconque. Et qui organisait aussi des crémations de code pénal sur la voie publique, après avoir uriné dessus généralement, ou piétiné. Et parce que le code pénal contenait donc les dispositions de la loi interdisant le port du niqab dans l'espace public. Et tout ça avait un côté incitation. Eux-mêmes ne commettaient pas de violence directe, mais incitation, Par exemple, ils sont convoqués au tribunal, ils sont là, eux aussi ne marchaient comme l'autre, comme Mera, qu'avec la webcam. En permanence, la webcam, en permanence, tout le temps. Embarqué, si vous voulez. Et ils vont au tribunal et ils refusent de se lever quand le juge entre. D'autant plus, c'est une femme. Et après, alors ils sont expulsés, il n'y a pas de jugement, et ils expliquent que le prophète Mohammed s'était levé devant personne, sauf devant cette personne devant qui on se lève, c'est Dieu, etc. Et cette logique donc, qui s'inscrit sur le web, qui fabrique des images à partir de la violence, qui est un mode de déconstruction du rapport à la réalité, est tout à fait frappante. Et Merah y a participé. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait été complètement conscient de tout ce que je dis, qu'il l'ait fait délibérément. Mais en tout cas, il l'a mis en œuvre.
Dans ce bain culturel. Oui,
oui, parce
là,
que c'est. Et ça va tout à fait avec la logique de Souris, parce qu'elle n'est pas. Si vous voulez, c'est pas une organisation léniniste.
L'initiative individuelle oui,
très importante,
a une part importante.
À partir du moment où vous avez eu le conditionnement psychique nécessaire. Je termine juste un instant. Parce que ça, en fait, ça couvre aussi d'autres choses.
Oui, justement. Oui.
Les étapes. Donc on commence par tuer ces malheureux militaires. La première victime s'appelle Mohammed. Et donc on élimine les traîtres. On purifie d'abord la communauté. Dans un deuxième temps,
là, il peut pas nier qu'il ne sait pas qu'il est musulman, puisque il le contacte par internet.
Oui.
Il y a un vrai contact. Il y a son nom là.
Tout à fait.
Les trois devant le distributeur automatique de billets, on peut imaginer que il peut l'ignorer. Mais celui qui contacte par internet, c'est totalement.
Mais qui plus est, ils sont tous, si j'ose dire, aucun n'est entre guillemets un sous-chien, comme dirait Madame Boutelja. Celui qui était catholique, j'ai été attaqué pour avoir dit qu'ils étaient musulmans. Bon, je prédis tous musulmans. Voilà, Abel Chenouf était antillais. Et donc, vous pouvez penser.
Non, l'antillais, c'est celui qui est blessé.
C'est l'autre, oui, qui est blessé. Vous pouvez penser qu'il n'est pas. Bref, enfin, quel que soit le problème, ne pas identifier les victimes, les malheureux par leur identité confessionnelle, mais par la manière dont le meurtrier se les est représenté. Donc on purifie d'abord et ensuite on tue l'ennemi pour essayer de construire une solidarité avec soi dans la communauté que l'on veut galvaniser. Et qui on tue, et ça c'est dans Souris aussi, et on le trouve chez Breivik qui tue des jeunes. On tue les jeunes et les enfants parce que c'est un djihad à long terme. Donc il faut tuer la jeune génération parce qu'on est... On construit l'action pour dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Breivik se fixe 2083 comme objectif pour purger l'Europe de l'islam. Pourquoi 2083 ? Parce que ce sera 400 ans après 1683, qui est l'échec des armées ottomanes devant Vienne. Et il est très influencé par un site néoconservateur et identitaire américain, qui s'appelle Gates of Vienna, les portes de Vienne, et qui voit dans donc l'échec ottoman, le coup d'arrêt, ce qui est la vérité, à l'expansion islamique en Europe, et il veut en faire un remake, si vous voulez. Et ça, c'est très frappant. Alors, donc, il tue les enfants juifs. Alors, on nous dit ce matin qu'il l'a improvisé, qu'il voulait encore tuer des militaires, et que le militaire était déjà parti, que du coup, qu'il l'ait improvisé ou non, à la limite, on ne le saura jamais, puisqu'il est mort, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans le formatage. C'est disponible, et il fait le lien entre ce qu'il a eu comme dans la tête et ce qui se présente. Il faut bien se rappeler que Souris explique que le terrorisme de proximité est la clé absolue de tout ça. Et le phénomène, donc, est tout à fait frappant parce qu'il s'inscrit là-dedans. Alors, est-ce que ça a marché ? Les gens se demandent, est-ce que finalement, combien tous les journalistes me demandent, alors, est-ce qu'il va y en avoir d'autres ? J'en sais rien, mais il me semble quand même que la révulsion... qui a été provoqué, c'est triste à dire, mais par le fait qu'il a commencé par tuer des musulmans, auprès d'un certain nombre de nos compatriotes d'origine musulmane, inhibe en grande partie la volonté de s'identifier ou la possibilité de s'identifier à lui, sauf dans des milieux ultra marginaux. Et toute la question, c'est un peu, pourquoi ça n'a, il n'y a rien eu entre 96 et maintenant ? Bon, on en a parlé parce que je crois effectivement là, les services spécialisés, DST, DGSE avant la DCRI, avaient une très bonne connaissance de cet univers du fait de l'expérience algérienne, du djihad algérien, qui a permis quand même à la France, un pays dans lequel il y a des risques, même en termes quantitatifs, de passer à travers ça. On a eu autre chose, on a eu les émeutes de 2005 qui sont l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait l'enquête banlieue de la République à Clichy-Montfermeil, mais pas le terrorisme. Mais surtout, je pense que, quoi qu'on dise, il y a eu le sentiment pour l'immense majorité de nos compatriotes ou de leurs parents venus d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale, que malgré les vicissitudes, malgré le racisme, malgré le chômage, malgré tout, finalement, ils avaient fait leur trou ici. Ils étaient français. Et que les déviances d'un certain nombre de trublions allaient surtout et d'abord les mettre en porte-à-faux eux-mêmes et menacer tout ce qu'ils avaient construit. Vous voyez ? Mon inquiétude, après 25 ans, est telle que je l'ai exprimée dans 93, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ce livre 93. Ce n'est pas parce que ça se rapporte exclusivement au département, même s'il y a, m'a beaucoup inspiré, comme modèle idéal typique, je dis ça pour vos étudiants, comme emblématique, c'est que je me demande si cette identification est toujours présente aujourd'hui. Si nous n'avons pas atteint, pendant ces dernières années, un degré d'élitement social, notamment dans les quartiers enclavés, de perte des repères et de l'identité, de fractures communautaires liées à la massivité du chômage dans la jeunesse des zones urbaines sensibles. Hein, un jeune sur deux entre 15 et 24 ans non scolarisé qui réside en ZU, c'est au chômage, c'est gigantesque. Et vous avez peut-être vu ce film, je trouve très très bien, La désintégration, de Philippe Faucon, qui raconte ça très précisément. Quand il est sorti, tout le monde a dit c'est une fiction. Et c'était un peu comme 93, on a essayé d'ailleurs, Faucon et moi, j'ai découvert qu'il avait lu mes livres avant, et je lui ai dit, mais regardez, banlieue de la République, on dirait que les dialogues de vos personnages sortent des entretiens que j'ai faits, certains d'entre eux. Et on a essayé de faire une sorte de petit syndicat pour s'épauler, pour attirer l'attention des médias sur nos travaux, peine perdue. Et lui, malheureusement, dans le circuit court, la distribution, le film ne marche pas en salle, il s'est retiré tout de suite. Les livres, il y a un peu plus de patience, donc ils ont attendu, les libraires qui ont sagement empilé devraient, j'espère, retirer les bénéfices aujourd'hui, j'espère vous vendez un peu plus, madame. Depuis que l'auteur passe à la télé tout le temps. Mais je ne suis pas sûr que la télé fasse vendre les livres. Je crois que les gens pensent qu'ils en ont assez. Ils ont compris après la télé. Ils zappaient. La télé amène plus de télé, en fait. Et pourquoi 93 ? Justement, c'est une inquiétude. Et comme vous le savez, 93, c'est aussi autre chose. Il y a un autre 93, un vrai. Celui de Victor Hugo.
À propos de tirage, je rappelle que 93, c'est un des derniers livres, c'est un des derniers romans de Victor Hugo. Il va mourir en 1885. Donc le livre est écrit en 1874. Je ne sais pas si vous savez, mais en 1876, il en a déjà vendu 200 000 exemplaires.
Ah, il m'a dépassé.
Ce qu'on peut souhaiter pour
vous.
Il m'a
dit ça pour me flebourdon ou au contraire pour m'encourager.
Pour vous encourager.
Bon, bah, grâce à Mera, peut-être.
Et donc, le choix de 93, de ce titre, donc 9-3, département du 93, mais c'est aussi parce que vous le dites d'ailleurs au début du livre, c'est à Montfermeil, hein, donc c'est une des deux villes avec Clichy-sous-Bois qui est l'objet de cette enquête, puisqu'il y a deux livres qui vont ensemble, hein, 93 et puis le livre bleu, Banlieue de la République, Société politique et religion, à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. C'est à Montfermeil que Victor Hugo situe l'auberge des Thénardier, hein, dans Les Misérables. Enfin, donc il y a évidemment là une, on va dire une filiation, si je puis dire, hugolienne, qui est tout à fait intéressante, dans, compris dans le propos d'Hugo et dans ce que vous montrez, vous, dans vos livres. Hein.
Oui, je crois que, pour plein de raisons, alors ça m'a été beaucoup reproché dans la revue Le Débat, au jour de cette livraison de maintenant. Il y a un débat assez vif avec une dame qui s'appelle Malika Sorel, et qui dit, il a parlé de Victor Hugo parce qu'il veut inférer Les Misérables, mais ça n'a rien à voir avec la situation du XIXe siècle, 40 milliards d'euros de rénovation urbaine, etc. C'est tout à fait vrai, d'ailleurs, le premier chapitre de Banlieue de la République est consacré à la rénovation urbaine et à sa signification. Mais néanmoins, dans l'un des grands ensembles dégradés où j'ai enquêté, qui s'appelle le Chêne Pointu, à Clichy-sous-Bois, qui n'a pas d'ailleurs bénéficié de la rénovation urbaine, d'une copropriété dégradée, la tuberculose a refait son apparition au mois d'octobre. Tuberculose, on est en France quand même, non ? On ne se pas sûr d'être en France dans ce bar d'ailleurs, hein, parce que les appartements ont été vendus à perte par les propriétaires au fur et à mesure que les impayés s'accumulaient, etc. Et les marchands de sommeil les ont récupérés. Le principal acheteur était d'ailleurs un flic de la PAF à Roissy qui faisait de l'accompagnement complet, qui repérait les clandestins et qui les logeait ensuite comme marchands de sommeil. Bon, il a été arrêté. Où on les met à quatre familles par appartement, sans rien, les ascenseurs qui ne marchent pas, etc. Tout l'eau qui s'infiltre, le chauffage qui n'est plus payé par personne. Et là, la municipalité de Clichy-sous-Bois, ces derniers mois, a rémunéré des porteurs, des coulisses, si j'ose dire, pour porter les paquets dans les étages, parce que les ascenseurs sont perpétuellement cassés. Donc, bon, aussi pour manifester la solidarité, mais aussi pour montrer la situation dramatique. Les moyens d'action à la municipalité sont assez limités. Ils ne peuvent pas expulser, chasser les... Je termine un petit mot sur Victor Hugo, parce que la filiation me semble importante, parce que... Donc, d'une certaine manière, on peut dire... Je crois qu'on peut aller jusqu'à dire que nous sommes en train d'assister à l'émergence de... misérable de la société post-industrielle, de la réapparition de prolétaires au sens propre, prolétaires chômeurs, si vous voulez, qui ne trouvent pas leur place dans l'appareil productif post-industriel. En Seine-Saint-Denis, bon, je ne connais pas du tout la région bordelaise, à part que j'ai quand même vu des choses du TGV et entre la gare et ici qui m'ont rappelé des souvenirs, mais les gens viennent en Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, c'est la fenêtre de la France sur le monde. 1 500 000 habitants officiellement, d'après un haut fonctionnaire de la République dans ce département, à qui j'en parlais, il m'a dit, vous pouvez compter 2 millions. Ah oui. Donc 500 000 clandestins, probablement. De bonnes sources, je ne dis pas son nom, parce que c'est enregistré, mais vous pouvez le trouver vous-même. C'est une vraie question. Et toutes les nationalités sont là. C'est le sas d'entrée principal. Il y a l'aéroport aussi. Mmh. En Seine-Saint-Denis, on a une population qui s'est installée là parce qu'il y avait les usines autrefois. Maintenant, elle est toujours là, mais il n'y a plus les usines.
autour du Stade de France, ce qu'on appelle le quartier de la Plaine, il y a il y a une espèce de Silicon Valley qui est en train de se monter. Des sièges de banques, sociétés informatiques, de téléphonie, etc. Mais la population de la Seine-Saint-Denis a rarement, enfin la population pauvre, a rarement les qualifications, le savoir-faire et aussi les savoir-être, puisqu'on est dans du tertiaire. Il faut savoir se comporter, puisque le tertiaire comporte une part non négligeable d'interaction humaine pour avoir ces jobs. Oui. Et donc on est dans cette situation d'accroissement du chômage. Alors, qu'est-ce que Victor Hugo a à faire là-dedans? Victor Hugo, quand même, même si on l'a moins lu ces derniers temps, même si c'est son 150e ces jours-ci, et donc le 150e de sa mort, et vous venez d'en rappeler la date, c'est notre grand romancier national. Hein ? Il y a une rue Victor Hugo partout, il n'y a pas une rue Stendhal ni une rue Gustave Flaubert, hein, même si ce sont sans doute des romanciers d'une qualité littéraire peut-être supérieure, mais il tire un peu à la ligne, peut-être parce qu'il a si bien vendu. Vous m'avez dit ça avec méchanceté tout à l'heure, mais ou pour me stimuler. Et notre grand roman national, c'est justement ça qui a été mis en cause par les émeutes de 2005, et que ce qui s'est passé ces derniers jours voulait également remettre en cause. Et moi, je ne suis pas très inquiet. De cette enquête, je ne suis pas sorti pessimiste. C'est très dur. C'est très dur, et les éléments de fracturation communautaire dans les quartiers socialement et économiquement enclavés sont réels, posent des problèmes. Le halal sous sa forme, si j'ose dire, glatte cachère, qui est celle qui est prise en otage aujourd'hui par un certain nombre de mouvements islamistes, pose un vrai problème en termes de normes de la rupture, de la clôture et de la rupture communautaire, qui conduit à l'endogamie, à la non-convivialité, etc. Or, la France, si l'on en juge par ce qui nous a rendu pendant quelque temps agréable à l'étranger, je crois qu'on ne l'est plus maintenant, c'est deux choses, la gastronomie et l'érotisme. Pourquoi ? Parce que c'est le pays où tout le monde mange et couche ensemble. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit encore le cas. D'ailleurs, Merra était allée au Pakistan pour y chercher une épouse, paraît-il, une bonne musulmane, pieuse. Et c'est ce roman national qui fait question, en fait. Et c'est ça qui tourne autour de l'affaire Merra. C'est ça qui est l'œil. J'ai fait un petit papier dans Le Monde cette semaine, où Le Monde a changé le titre, parce qu'il faut, ce qui excite le journaliste, c'est de changer le titre. J'avais appelé comme le chapitre « Extension du domaine du halal », parce que j'aime bien détourner les titres de romans, vous voyez. Et pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et je crois que c'est l'œil du cyclone de la campagne, la question sociale. Et l'affaire Merra en est une conséquence monstrueuse. Mais les candidats soit l'hystérisent, pour parler un peu le vocabulaire de la psychanalyse, soit le refoulent. L'hystérisation, d'ailleurs c'est une femme qui l'a hystérisée, c'est l'une des deux candidates, celle qui parle, et qui en a fait la cause de tous les maux de la société, du vieux pays, qui l'a montré au doigt. Les autres, de l'autre côté, l'ont refoulé. On ne parle pas de la question sociale, on pratique ce que mon collègue et ami Hugues Lagrange appelait dans son livre le déni des cultures, parce que on a peur des conséquences que ça donne, et puis surtout dans la situation actuelle, parce qu'on a peur que toute déviation vers la dimension sécuritaire, le traitement sécuritaire de la question sociale, évidemment, profite à l'extrême droite. Ce qui ne semble pas être le cas, d'ailleurs, curieusement, vous avez vu que la grande nouvelle du jour, c'est que Mélenchon est passé devant Marine Le Pen dans les sondages. Ce qui indique quelque chose de différent. Et moi, je ne crois pas que, contrairement au titre inepte du Financial Times, la France assommée
Je ne crois pas. J'ai l'impression que, jusque y compris à travers le petit spectacle donné par la réunion sur le perron de l'Élysée, au bas du perron, plutôt bas des marches, du grand rabbin Gilles Bernheim, de Richard Prasquier, le patron du CRIF, de Moussaoui, Mohamed Moussaoui, le Marocain qui dirige le CFCM, et de Dalil Boubaker, qui ont parlé d'une seule voix, globalement. On a eu un sentiment, un exemple d'unité nationale que j'ai trouvé assez remarquable, y compris pendant la campagne. Mais maintenant, si chacun peut s'interroger, c'est normal. Est-ce que le RAID aurait dû faire comme ça? Est-ce que ceci, cela? Oui, donc je crois que non seulement le pays a montré sa force, la République a montré sa résilience, me semble-t-il, mais jusque y compris les petits entrepreneurs qui ont commencé à dire « Ouh là là, on craint l'islamophobie ». Bon, non, le gars a tué, tout le monde a bien vu qu'il a tué un gars, il a commencé par tuer un gars qui s'appelait Mohamed. Alors, si j'ai pas de gloser là-dessus à l'infini, hein, mais qu'on nous lâche un peu les baskets avec l'islamophobie, qui est une invention des islamistes pour interdire la critique du texte, d'ailleurs. Ça n'est pas le parallèle musulman de l'antisémitisme, comme voudraient le faire croire les Tarek Ramadan et compagnie.
Juste, avant de donner la parole au public, est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, la méthode que vous avez adoptée pour faire cette enquête? On sait que c'est une enquête qui a été donc faite à la demande de l'Institut Montaigne. Vous aviez écrit il y a 10 ans, je crois, l'islam des banlieues.
25 ans.
Les banlieues de l'islam. Et donc, vous avez travaillé en équipe. Ce livre est tout à fait passionnant parce qu'il y a 100 entretiens qui ont été réalisés. Il y a un appareil, comme on dit dans notre jargon, notre vocabulaire, un appareil théorique et méthodologique qui est tout à fait passionnant, avec le guide d'entretien qui a été fourni, qui a été utilisé. Il y a ce qu'on appelle des verbatims, c'est-à-dire des paroles qui sont extraordinairement fortes. Ça se lit, j'allais dire, avec une...
Comme un roman.
Pas un roman, oui, quelque part. C'est banlieue de la République.
Et puis
ça fait l'objet après donc de ce livre 93. Dans ce livre, à la fin, on va terminer là-dessus quand vous nous aurez expliqué exactement la méthode qui a été la vôtre, combien de temps ça a duré la recherche, etc. Et alors donc à la fin, il y a un récit qui est absolument étonnant, qui est une rencontre, un déjeuner à l'Élysée. Qui a lieu le 17 octobre 2011. Vous ne connaissez pas une personne dont vous dites ce monsieur au teint hâve parlant haut, Christophe Guillouy, qui est un conseiller du président. Le président
non, l'appelle. Pas un conseiller, non, c'est un universitaire. Enfin.
Le président l'appelle par son prénom. Ouais. Il le tutoie, voilà. Et alors, ces deux personnes vont s'acharner en quelque sorte à remettre en cause le travail que vous avez pu faire. Et d'ailleurs, vous dites au tout début, le président de la République objecte que le mot banlieue recouvre des réalités disparates et paraît inadéquates. Et vous dites, mais derrière le truisme qui met en contraste Neuilly-sur-Seine, dont il fut longtemps maire, et Clichy-Montfermeil, surgit très vite une polémique dont Mme Tribala, d'ailleurs, va se faire en quelque sorte l'exécutrice testamentaire, je ne sais pas si on peut le dire comme
oui,
ça.
Oui, non, personne n'est mort, heureusement. Bon,
alors, comment vous avez travaillé concrètement, comment vous avez travaillé? D'accord. Et puis, après, on donne la parole à ça. Et peut-être les éléments forts de votre enquête.
Alors, 93, je l'ai fait après. C'est un essai que j'ai écrit entre juillet et octobre.
Oui,
De 2011, l'année dernière. Hein. Voilà, 2011. Et... qui a été basé sur... c'était un travail sur l'islam de France, 25 ans de l'islam de France, par opposition aux banlieues de l'islam que j'avais écrit il y a 25 ans. Les banlieues de l'islam, c'était un travail en surface, surtout, pour essayer de... J'avais sous-titré « Naissance d'une religion en France ». Parce que j'aime bien les oxymores dans les titres. Une religion, en principe, ça ne naît pas... Enfin, elle a... Ça a déjà été là. Quand on arrive, elle est déjà là. Il faut faire avec. Là, il y en a une qui naît. Donc c'est intéressant de voir comment ça s'articule avec le social. Et je ne pourrais plus l'écrire aujourd'hui. Il n'y a plus une, la naissance d'une religion en France. Mais à l'époque, oui. Uh-huh. Et j'avais fait une enquête déjà auprès d'une quarantaine de personnes, toutes de confession musulmane. Et là, j'ai voulu mener les choses assez différemment. Alors, ce livre est un livre assez alimentaire, à tous les sens du terme, puisqu'il commence sur le récit de trois iftars, 93, c'est-à-dire de repas, trois repas de rupture du jeûne qui ont lieu le 24 août. J'ai été dans deux, j'ai envoyé un de mes étudiants dans le troisième. Et à la mairie de Paris, à la résidence de l'ambassadeur américain en France, et sous la tente du Secours islamique à Saint-Denis, devant la Bourse du Travail CGT. Et j'ai essayé de contraster, et ça finit par un déjeuner chez Nicolas Sarkozy, à son invitation. Puis ça parle beaucoup du halal dedans. Donc vous voyez, si vous êtes gastronome, enfin, lisez ou ne lisez pas ce livre. Et donc c'est un essai qui se lit beaucoup plus facilement que l'autre, qui se lit aussi facilement, j'espère, mais qui est plus long. Et alors le premier, donc effectivement, comment naissent ces choses? Il y a à peu près un peu moins de deux ans maintenant, en tout début de l'année 2010, Laurent Bigorgne, qui avait été le directeur de la scolarité de Sciences Po,
Sciences Po Paris, oui.
Donc qui a été remercié par l'actuel directeur de Sciences Po, donc qui a un peu défrayé la chronique, comme vous le savez, ces derniers temps, et moi qui ai été aussi mis sur la touche, nous nous sommes rencontrés un jour, comme ça, en prenant un verre, il me dit, pourquoi est-ce que tu n'étais devenu entre-temps directeur de l'Institut Montaigne, enfin, il allait le devenir, pourquoi est-ce que tu ne reprendrais pas, 25 ans après, ce travail sur les banlieues, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et puis, voyez, ça va être un enjeu très important dans la campagne présidentielle.
Il faut préciser, pardon, que l'Institut Montaigne est présidé par Claude Bébéard.
Oui.
C'est un think tank, comme on dit,
plus plutôt ou moins, c'est ça.
D'inspiration, on va dire, plutôt libérale.
Oui. Hein, oui, ce qui n'est pas mon cas, d'ailleurs.
Non,
vous avez raison, parce que c'est intéressant. Et qui est, voilà. Mais Bébéard s'intéresse. Bébéard, vous savez, c'est le fondateur d'AXA. C'était l'un des grands parrains du capitalisme français, si j'ose dire. Il a pris sa retraite maintenant. Il n'est plus président exécutif d'AXA. Et il a, c'est un monsieur qui a 75 ans et qui a une passion pour son après-vie active de grand industriel, de grand capitaine d'industrie, outre la chasse aux fauves, comme beaucoup d'ailleurs de grands capitaines d'industrie, c'est de comprendre ce qui se passe dans la société française. Et comme on dit en anglais, de think outside the box, d'essayer d'aller ailleurs, pour comprendre. Et donc, ce projet l'a beaucoup intéressé. Avec d'ailleurs toutes sortes de préventions qu'il a lui-même. Et je pense, je ne suis pas sûr qu'on mette le même bulletin dans l'urne, mais ça n'a aucune importance. Parce qu'il était intéressé, il était curieux, et nous avons eu toute liberté. Personne ne m'a dit d'écrire ceci ou cela. Et je ne suis pas. Je ne suis pas comme Mohamed Merah par rapport à Boumoussa Bessouri. Je ne pense pas que j'exécutais un script sans le savoir, si vous voulez. Et j'espère, en tout cas. Et on a cherché un peu comment faire avec Laurent Bigorgne. Je n'ai pas voulu faire la même chose qu'il y a 25 ans. J'ai essayé de comprendre, dans une agglomération, comment les choses s'articulaient, si vous voulez. Et là, voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et j'ai cherché une agglomération justement problématique, et c'était Clichy-Montfermeil. J'avais, dans un livre précédent, Terreur et Martyr, je m'étais intéressé à ce qui se passait en Europe, et je l'avais écrit, le livre est paru en 2007, je crois, en 2008, je ne sais plus, en français. Et donc il y avait un son de passage sur les émeutes de 2005, où j'avais, ce qui n'était pas difficile, déconstruit les bêtises écrites par les néoconservateurs sur ces émeutes, disant... C'était des brigades d'El-Qaïda disséminées en France qui avaient monté des émeutes ou des conneries. Bon, ça, c'était facile à faire. Mais un de mes collègues avait trouvé que j'en avais une vision un peu trop simpliste. J'habite au quartier latin à Paris et il m'avait dit « Ça, c'est le 93 vu du quartier latin ». Ça m'avait un peu piqué, je n'avais rien dit. Je me suis dit, bon, il a peut-être raison, mais après tout, traverser le périphérique, c'est compliqué. Je y vais quand je prends l'avion pour à Roissy, mais bon, m'arrêter en route. Et puis, j'avais ça dans ma tête. Quand j'ai eu cette proposition, j'y vais. J'y vais et je me lance, je me jette à l'eau. Et après tout, vous savez, la vie d'un professeur, on s'assied dans ses certitudes, on est conforté, on se mandarinise. Bon, on devient de plus en plus un vieux con. Hein. Tout est fait pour devenir de plus en plus vieux, on n'y peut rien, biologique, de plus en plus con aussi. Hein. Et surtout, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de devenir un vieux con ? C'est de ne plus jamais avoir la capacité de remettre en cause les certitudes qu'on a acquises. Et puis, bon, je suis allé. Puis ce que je faisais dans le golf, les financements partaient. Donc j'ai expliqué à un journaliste que l'année prochaine, j'allais un peu moins prendre Emirates Airlines et davantage le RER. Du coup, notre truc, il est déprimé. Et c'était très intéressant de prendre le RER tous les jours. Ça. Et
mais vous n'avez pas habité sur place, hein ?
De temps en temps.
Ouais.
Pas en permanence, non. J'ai une famille, il faut que je nourrisse. J'ai un petit garçon que je dois amener à l'école le matin. Donc,
et votre équipe, votre équipe qui était avec
on
vous
allait, non, on y était tout le temps.
D'accord.
Mais de temps en temps, on dormait sur place. Mm-hmm. J'avais mes habitudes au Formule 1, à côté de la mosquée Bilal.
Et laquelle mosquée Bilal va être celle où il va y avoir
voilà, les gaz mosquée gazée, entre guillemets, mm-hmm. le gazage de la mosquée. Mm-hmm. Et enfin, en 2005.
Oui.
Et donc. On a construit un questionnaire autour destiné à 100 personnes. Pourquoi 100 ? Parce qu'ayant fait un bac littéraire, je suis nul pour faire la règle de 3. Bon, mais c'était pas une bonne chose parce que de toute façon, il n'y avait toujours jamais 100 pour les.
On vous croit pas, on vous croit
non,
pas.
C'est vrai, non, c'est ça. C'est facile ça. Ouais. Et non, je sais pas faire des règles de 3. Hein. Et même avec les ordinateurs, je sais pas. Et donc, on a pris 2/3 qui se déclaraient musulmans et 1/3 se déclaraient non musulmans. Contrairement au banlieue de l'Islam, on n'avait que des gens qui se déclaraient musulmans. Qui est un spectre, comme on fait toujours en sociologie, qui ne saturait pas des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des blacks, des blancs, des beurs, des femmes, des hommes, des analphabètes et des diplômés, des surdiplômés, enfin pas beaucoup, mais quelques-uns. Mmh. Et truc habituel. Et puis on a construit le questionnaire autour de 6 grandes questions, 6 grands thèmes. L'habitat, qui nous semble être la porte d'entrée, puisque dans ces département où l'industrie, c'est-à-dire où le travail, n'est plus la valeur centrale, on est assigné à résidence, si j'ose dire. Hein. Donc, et l'habitat, c'est très important parce que l'habitat, c'est le lieu majeur dans lequel la politique de l'État s'est déployée pendant le quinquennat Sarkozy. Ça a été la rénovation urbaine. 40 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Et mon sentiment, comme ça, au doigt mouillé, c'est que la raison pour laquelle ça n'a pas pété, c'est que la rénovation urbaine était tellement visible que ça a inhibé le passage à l'acte de la révolte sociale dans les banlieues. Ce sentiment qu'il y a quand même un élément de solidarité nationale très fort. Ce qui me donne aussi, ça fait des choses qui me rendent pessimiste, même si la rénovation passe plein de problèmes. Comment est-ce qu'on passe du béton à l'humain ? Donc, chapitre 2, l'éducation.
Après, l'emploi étant libre.
L'emploi, oui, enfin surtout l'emploi et chômage, en gros. La sécurité.
La participation politique.
Voilà, on a suivi les cantonales, c'est passionnant.
La religion.
Les questions religieuses.
Vous distinguez pour juifs, pour chrétiens et pour musulmans. Voilà. Puis, in fine, la famille.
La famille, on a peu parlé. Oui, la famille, c'était juste de questions comme ça, de contrôle. Et donc, il y a eu le questionnaire qui a été administré entre Ramadan, août et octobre, à peu près. On avait fait. En 85, pour les banlieues de l'islam, le questionnaire pendant Ramadan seulement. Là, on a débordé. On a eu du Ramadan et pas Ramadan. Puis, on a fait de l'observation participante pendant toute l'année. On allait aux fêtes religieuses, on a suivi les élections de très près, on allait aux fêtes de quartier, on a suivi les opérations de démolition. On a vu le grand ensemble qui est sur la couverture, la forestière, n'existe plus. Il a été démoli pendant qu'on y était, pendant l'animation urbaine. On a visité tout ça, on a assisté à l'ouverture du commissariat aussi, qui était un truc très, très important. Et puis on a beaucoup socialisé, on allait aux fêtes, on allait voir comment les gens fonctionnaient, dans les colonies de vacances avec eux. Ça. C'était très très intéressant. Et moi, ça m'a complètement changé. je ne dis pas que je suis moins vieux, ça, malheureusement on ne peut rien faire, moins con. J'espère, je ne suis pas sûr d'y être arrivé, mais je crois que j'ai, en tout cas j'ai essayé de l'être. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé. Et cette histoire m'a vraiment changé. J'ai été très impressionné par la vitalité, par la capacité d'entreprise d'un certain nombre de gens dans ces quartiers pauvres qui ont une pêche, qui ont rien, enfin qui ont très peu de choses à leur disposition dans leur capital social, culturel, et qui néanmoins s'engagent, alors peut-être des fois de travers, hein, bien sûr, à mon avis en tout cas, pour s'en sortir. Mais j'en suis sorti assez optimiste. Et pas du tout avec la vision désespérante qu'on a, négative, il n'y a rien à faire, c'est foutu, c'est pourri, on attend que ça pète et puis on envoie les CRS, on calme, on fait un peu cramer et puis après on les oublie de nouveau. C'est un peu la tentation de la campagne électorale d'ailleurs. N'en parlons pas ou hystérisons-le. Alors qu'il y a une vraie question sociale, oui. Alors j'ai essayé de construire, et c'est la banlieue de la République, donc c'est un oxymore aussi, puisque... La République, en principe, elle n'a pas de banlieue. La République, c'est la République. S'il y a une banlieue de la République, c'est qu'il y a, comme disent les jeunes, qu'il y a un blême. Et c'est ça. Et ça n'est pas sur l'islam, a priori. Simplement, avec les chiches ouvertes fermées, il sort partout. Dans l'habitat, un petit peu moins. Dans l'éducation, en plein. Dans l'emploi, dans les itinéraires, aussi dans la manière dont les émeutes ont été racontées, mais je ne vous dis pas ça, parce que personne n'achètera le livre. Et donc, j'ai essayé de montrer comment se construisait, si vous voulez, ce petit morceau de société emblématique et très enclavé. L'enclavement, l'éloignement des centres, l'absence des transports en commun étant un enjeu très important. Pour rendre manifeste des phénomènes de structuration communautaire qui ailleurs sont beaucoup moins présents, mais qui sont aussi, dont la structure est là, si vous voulez. C'est une logique très, très weberienne, en fait, pour les élèves et les profs.
C'est une logique compréhensive.
Voilà, de construction d'idéal type. Si vous voulez. Ça, c'est fait. Et après, j'ai fait 93. J'ai tiré pour 93, qui est là spécifiquement sur l'islam de France, beaucoup d'éléments que m'avait apporté l'observation participante, l'analyse de l'enquête, etc. Mais je l'ai inscrit dans des éléments de plus grande masse, en lisant les sites, en faisant par exemple une tripartition chronologique de ce que j'appelle les trois âges de l'islam de France.
Qui rejoint ce que vous disiez d'ailleurs sur les trois étapes. C'était frappant tout à l'heure quand vous évoquiez les trois étapes.
Oui, là, je suis un ancien cagneux, donc je pense toujours par...
Merci à Gilles Kepel, merci beaucoup. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on vous écouterait des heures, c'est ça la difficulté.
C'est gentil.